Salut Daniel Mermet, bravo pour toutes ces émissions passionnantes et j'en profite pour passer un petit message d'amitié à Paul Bégaud qui est en vacances dans son camping-car et qui je pense doit encore écouter Daniel Mermet. Donc passe de bonnes vacances Paul en compagnie de Daniel Mermet et reviens nous vite. Allez salut, à bientôt, c'était la Bretagne bien sûr, ciao.
Ne cherchez pas notre ministre des Affaires étrangères au Quai d'Orsay ces jours-ci, ni au Darfour, ni au Kosovo, parce que pendant que Fadela Amara se fait remonter les bretelles à Paris, Bernard Kouchner se fait chouchouter à Deauville, invité par ces dames du très chic et cosmopolite Women's Forum. Logique, hein, sa compagne Christine Ockrent fait tous les ans des ménages très lucratifs pour ce raout monde. Alors là, ils seront en couple, hein, shabadabada. Bah, il a bien droit à un peu de luxe et de volupté, notre ministre d'ouverture. Et puis les dorures, les palaces, ça lui va si bien au teint. Alors il interviendra, entre deux petits fours, devant Sparter, tout en Hermès et John Galliano, sur le thème « Comment concilier morale et réal politique ?» Bah, ça lui va comme un grand sujet, hein. Des gants Burberry's, évidemment.
Oui, bonjour, c'est Dominique dans les Pyrénées-Orientales. Mais voilà, ça y est, j'ai retrouvé Cécilia. Donc, ce matin, je surfais sur la toile, là, et en allant sur l'excellent Rue 89, bah, ils annoncent que depuis 3 semaines, elle est sur le lac Clément. Donc, j'attends de voir quand est-ce que les médias et France Inter vont nous annoncer ça, quoi, parce qu'il paraît que, d'après l'article, tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre en presse, et puis c'est bon, quoi. Eh ben, j'espère que, avec le divorce, bah, en même temps, lui aussi, il va plus quitter l'Élysée, quoi. Allez, bon courage à tout le monde, et puis ça va être chaud, quoi. Allez, au revoir, bonne journée.
J'ai lu ce matin dans le journal 20 minutes que Enrico Macias espère que Sarkozy reviendra sur cette idée honteuse, à savoir les tests ADN. Mais Enrico, la honte ne revient-elle pas d'abord sur tes épaules d'avoir soutenu un candidat en feignant de croire qu'il n'était pas habité par de telles idées putrides? Allez, salut.
Ouais, salut Daniel et toute l'équipe. Mais j'appelle parce que je suis étonné de ne pas avoir entendu de messages sur le courage, sur l'audace de notre grand intellectuel philosophe français. Je veux parler évidemment de BHL qui a traité Guénaud de raciste hier sur France Inter pour le discours qu'il a écrit à Sarkozy à Dakar. Bon, il traite Guénaud de raciste quand même, il faut avoir du courage quand même, hein. Bon, certains vont dire que c'est un coup de pub pour son livre qui sort ces jours-ci. Oh, quand même, BHL c'est un grand philosophe avec de grandes idées, moi je trouve. C'est pas parce qu'il réagit 2 mois après, juste avant la date de sortie de son livre, que oh, ça va être une coïncidence quand même. Toute l'Afrique francophone a crié au scandale et lui quand même il a le courage d'en parler, il faut le dire devant les médias. Bon, c'est pas parce que c'est l'ami des hommes politiques, des hommes d'affaires quand même, quoi. C'est pas parce qu'il est millionnaire, bon d'accord, il tutoie Sarkozy, DSK, Fabius, Villepin, Pinault, il a fait l'éloge de Jean-Luc Lagardère, bon quand même, s'il est invité sur France Inter, Europe 1, s'il fait la une du Nouvel Obs, de Marianne, de Paris Match, c'est quand même qu'il a du talent, non. Moi je suis presque, je pourrais dire que c'est un anticonformiste, quoi. Et c'est pas parce que Serge Halimi prévoit son agenda de BHL 1 an avant, non, il n'y a pas de connivence politico-médiatique, c'est pas possible, hein. Moi je suis sûr qu'il va pas s'arrêter là, BHL, hein. Pff, non, il est trop courageux, il est trop... C'est un rebelle, quoi, c'est un rebelle, il va bientôt dénoncer la politique d'expulsion de Sarko, quoi, il va le traiter de raciste aussi, hein. Ça pour le coup c'est pas un discours, hein. C'est pas des mots, ça c'est une politique, c'est des actes, hein. C'est sûr, il va pas s'arrêter là, il va critiquer les grandes entreprises françaises, hein, qui font des profits énormes en Afrique, hein. Il va parler de la dette, il va citer d'autres noms, comme Bolloré, comme Total, comme Lagardère, il va critiquer l'amitié de Sarko et de Omar Bongo, non, il est trop fort, ce BHL.
Bonjour, un petit renseignement généreux trouvé sur le site de l'Association des maires de France. Elsa, l'une des grandes attractions du salon Millipol, le grand supermarché de la police, qui se tient du 9 au 12 octobre à Paris Expo, porte de Versailles. Elsa, donc, n'est pas une attraction féminine, mais un petit avion sans pilote, pesant 600 grammes, ayant 1 mètre d'envergure et 30 minutes d'autonomie en vol, et muni d'une caméra à visée infrarouge. Cet engin léger de surveillance aérienne, appelé aussi drone, va intégrer les rangs des forces de l'ordre en décembre prochain. Il survolera rassemblements et manifestations et surveillera des zones sensibles. Petit commentaire perso, les chefs de la police israélienne qui utilisent cet engin depuis de longues années et qui, rappelons-nous, sont venus à l'invitation de Sarkozy après les révoltes de 2005 et revenus encore l'hiver dernier pour former nos policiers français, les ont apparemment convaincus qu'il y a beaucoup mieux que le Karcher. C'était Mireille de LM près de Lille. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Thomas, professeur de sciences économiques et sociales dans l'Essonne. Je voulais juste réagir au message qu'a laissé une auditrice que tu as diffusé dans ton émission de mercredi à propos de l'excellente émission sur l'ADS, où elle regrettait que les professeurs d'économie ne développent pas les statistiques de leurs élèves et attendent qu'ils écoutent bien sagement des cours. Je voudrais simplement dire que nous, ce qu'on fait en sciences économiques et sociales, pas économie, c'est de donner aux élèves les outils conceptuels pour se saisir du monde contemporain et qu'en économie, en sociologie, pour qu'ils construisent eux-mêmes un jugement rigoureux, posé, mesuré, qui construisent simplement cet esprit critique et que cette discipline n'existerait pas sans la valorisation de l'esprit critique. Et je voulais juste dire que c'est peut-être pas pour rien que M. Darcos a pris position contre la filière ES, comme l'ont fait presque tous les ministres de l'éducation des gouvernements de droite depuis une bonne dizaine d'années. Voilà, bah, c'était tout. Bon courage et continuez comme ça. Salut.
Salut à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. Bah là, c'est un petit appel des marcheurs entre Chartres et Paris pour avoir le droit de consommer sans OGM, cette espèce de saloperie sans nom là que nous a imposé le monde libéral. Et puis, bah, comme on a mis le mégaphone avec l'émission de là-bas, c'était un petit retour des choses. Là, voilà, merci de nous faire passer du bon temps, même quand on marche et même quand on lutte. Allez, à ciao, viva, et tout le monde peut nous rejoindre sur cette marche. À bientôt.
Libérez les sans-papiers! Libérez les sans-papiers! Ce parlant immigrés!
Et voilà, vous les entendez tous, ils sont là, vous entendez la voix de Bernard-Henri Lévy, de Michel Rocard, de Philippe Val, enfin de tous ceux qui s'indignent contre le sort fait aux sans-papiers, aux immigrés, et qui manifestent donc... Eh ben non, pas du tout, pas du tout. On était avant-hier au métro Belleville, à Paris, il y avait cette manifestation. Et on était avec Éric Hazan. Éric Hazan, que vous connaissez si vous êtes des fidèles de la basse J'y suis de France Inter. Éric Hazan est un éditeur des éditions La Fabrique. Il est également écrivain. Vous vous souvenez d'une émission qu'on avait faite ensemble sur un de ses livres, La propagande du quotidien, sur le langage et la manipulation du langage. Il est un formidable historien de Paris. Il a une connaissance très pointue de Paris. Enfin, et là, il sort un bouquin qui s'intitule « Changement de propriétaire, la guerre civile continue ». Et c'est 3 mois de chroniques et d'un journal qu'il tient sur depuis l'élection du nouveau propriétaire, comprenez le nouveau président. Et pour Éric Hazan, eh bien la guerre civile continue. C'est un mot qui n'est pas indifférent dans son sous sa plume ni dans sa bouche. Bon connaisseur qu'il est de l'histoire de la commune. On va donc passer cette heure ensemble. Merci à ces auditeurs et auditrices tout à fait perspicaces, notamment sur l'histoire des drones pour surveiller banlieues et manifestations. C'est le titre du journal Le Monde aujourd'hui. Voilà, l'auditrice avait donné cette information avant que ça ne fasse la couverture de ce quotidien, le quotidien Vespéral des marchés. Et merci aussi pour vos renseignements généreux et ces précisions, ces informations assez précises de façon général. Et puis allusion, et ben évidemment, c'est la saison du pompeux cornichon. Ah bah oui, il y a la saison des girolles, la saison des noix, puis la saison du pompeux cornichon qui sort son livre. Il faut savoir quand même que français que nous sommes, on a quand même parfois des sujets de satisfaction, de fierté. Il y a le rugby, mais il y a aussi que nous avons l'écrivain, appelons ça comme ça, ou le philosophe si on veut, le plus entarté du monde, hein. Cette fois, le pompeux cornichon a été entarté. Voilà, donc cette heure nous la passons avec Éric Hazan. dans la capitale de l'État unique. Eh oui, c'est là où nous sommes, la capitale de l'État unique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut à tous, c'est pour la rubrique Renseignements généreux. Je voulais signaler que la Fédération CGT des services publics appelle l'ensemble du secteur public à s'inscrire dans la grève du 18 octobre. Car hormis la suppression de certains régimes spéciaux, pas ceux des politiques, c'est toute la fonction publique qui se verra démantelée par la suppression massive de postes de fonctionnaires, la suppression de missions et l'introduction d'un statut de droit privé. Cette liste de réjouissances n'est pas exhaustive, car les 2 minutes accordées par le répondeur n'y suffiraient pas. Mais grosso modo, nous assistons à une mise en place progressive de l'accord général sur la commercialisation des services, plus communément appelé AGCS. C'est pourquoi, dans un souci de convergence avec des processus d'action de grève déjà initiés pour le 18 octobre dans d'autres professions, la CGT des services publics se mobilisera.
Les amis de la Bastille suis de Brest se réunissent le jeudi 11 octobre à partir de 19h30 au Café de la Plage, place Guérin. Voilà, donc on vous attend.
Bonjour, François Fillon nous annonce moins de fonctionnaires, moins d'État, moins de services. Il faudrait tout de même que ce gouvernement se rappelle qu'on a voté non à la Constitution, c'est-à-dire non à la casse des services publics. Attention à trop tirer sur la corde, à la fin elle se casse. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Ça y est, la présidence portugaise de l'Union européenne a publié le nouveau projet de traité européen. Celui qui s'enfonce, on l'a appelé traité, puis traité simplifié. C'est qu'il faut éviter cette fois d'effrayer le populo et éviter à tout prix que le peuple ne s'en mêle. D'ailleurs, il sera adopté en France, c'est ce que veut Nicolas Sarkozy, par voie parlementaire. Alors, avec un ami, on a monté un site pour que justement le peuple s'en mêle. On y trouve les textes officiels et tous les argumentaires trouvés sur le net qui insistent précisément sur le déni de démocratie que constitue une adoption par voie parlementaire quand les Français avaient montré en mai 2005 ils avaient une opinion sur la construction européenne, celle-ci dut-elle ne pas plaire aux élites. On y trouve aussi des propositions d'action auprès de Nicolas Sarkozy, mais aussi du PS, auprès des médias également, pour que le débat s'engage réellement et qu'on ne nous enfume pas avec des mots comme mini-traité ou traité simplifié, 256 pages tout de même, plus les déclarations et les protocoles, alors même que d'après un rapport parlementaire publié le 9 octobre par la Commission aux affaires européennes de la Chambre des communes britanniques, ce nouveau traité est, je cite, « substantiellement équivalent au traité constitutionnel européen rejeté par les Français en 2005 ». Alors voilà, nous on a fait notre devoir de démocrate en montant ce site. Maintenant, il faut que chacun s'informe et agisse. Alors l'adresse du site, c'est www.traité-simplifié-sans-accent.org. Je répète, www.traité-simplifié-sans-accent.org. Merci.
Bonjour, un renseignement généreux. Nous allons bientôt arriver à la saison des pubs pour les oies, poulards, de chapons. Mais actuellement, sur France Info, service public, c'est la pub pour les fonds d'investissement Edmond Rothschild. Je pense que les petites gens et les SDF apprécient autant les uns que les autres. Continue Daniel et merci pour tout. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Eric Hazan. Changement de propriétaire, la guerre civile continue.
Flight number 2, arriving from...
Alors, nous voilà au centre de l'État unique.
Hein? Capitale.
La capitale de l'État unique. Il y a un petit peu de musique, là, c'est joli comme tout. Alors la capitale de l'État unique se situe, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, à Paris.
Oui, voilà. En préfiguration et en miniature. Et...
Voilà. Alors ça s'appelle la Vielleuse, le bistrot où on se trouve. La station de métro, c'est Belleville.
Ouais. C'est un bistrot d'ailleurs qui a des antécédents glorieux, puisque Vallès, dans l'insurgé, raconte que du premier étage... Derrière un matelas, il tirait sur les Versaillais pendant la semaine sanglante de cet établissement qui s'appelait déjà la Vielleuse.
Alors, pourquoi avoir choisi cet endroit comme symbole de la capitale de l'État unique ?
Parce que, justement, on y trouve des populations très mêlées. C'est une capitale internationale parce que, bien sûr, il y a des juifs tunisiens, beaucoup, beaucoup. Il y en a assis derrière nous, là. Des juifs tunisiens pauvres, d'ailleurs, et qui parlent arabe et qui jouent aux cartes dans des bistrots qui sont derrière, dans la rue des Noyers, des bistrots très pauvres. Ils jouent aux cartes, ils s'engueulent en arabe. Bon, il y a eux. Et puis, il y a évidemment aussi des Arabes, hein, des Algériens, des Français d'origine arabe. Et puis, il y a des Chinois, beaucoup de Chinois. C'est le premier Chinatown de Paris, ici. Et puis, il y a des Africains, là, assis, là, à la terrasse. Et puis, il y a quelques Français innocents, comme disait...
Ah oui. Feu Raymond Barre, le pauvre Raymond Barre. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce dont on parle là, c'est un des passages du livre que vous sortez ces jours-ci, Changement de propriétaire. Là, la guerre civile continue. Alors, le changement de propriétaire, on va voir, on va y venir. Mais d'abord, on va commencer par la guerre civile. Il y a déjà eu un premier tome de la guerre civile.
Ça s'appelait Chronique de la guerre civile. C'était paru à la Fabrique en 2003, l'année de la guerre du Golfe, de la guerre d'Irak.
Alors, c'est des chroniques, c'est un journal. Mais pourquoi la guerre civile? Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Quels sont les camps et où est la ligne de front?
Ah, c'est une ligne de front très compliquée parce que elle n'est pas évidemment. C'est une guerre civile mondiale et évidemment elle n'a pas les mêmes caractéristiques à Zurich et à Bagdad. Donc la ligne de front, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est pas une ligne de front vraiment bien définie. Enfin, elle l'est parfois. Elle l'est en certains lieux. C'est certain que le mur qui entoure la zone verte à Bagdad, c'est une ligne de front très claire. Ici, à Paris, la ligne de front, elle est très variable. Il y a des endroits où la ligne de front se matérialise soudain. La gare du Nord est un lieu de combat, est un haut lieu de la guerre civile à Paris. Barbès aussi. Ici, c'est plutôt un lieu des dégâts collatéraux, quoi, puisque c'est un lieu où des populations, alors là, vraiment innocentes pour le coup, sont raflés parce qu'ils n'ont pas de papier, parce que leurs enfants sont à l'école et risquent d'être reconduits à la frontière en même temps que leurs parents. Donc c'est une zone, je dirais, là, le quartier Belleville, c'est une zone de population fragile avec dégâts collatéraux.
Vous qui connaissez bien l'histoire de la Commune, quel lien il y a entre le Paris populaire de la Commune et ces quartiers populaires d'aujourd'hui?
Le rapport est à la fois lointain et très proche parce que ce n'est pas par hasard que les dernières lignes de défense de la Commune étaient rue Rebval, là où il y a le siège de la Fabrique, rue de la Fontaine-au-Roi à 50 mètres d'ici. C'est là que les dernières barricades ont tenu jusqu'au bout. Et cette ligne qu'on pourrait dessiner comme étant la ligne d'ultime défense de la Commune, c'est aujourd'hui la ligne qui circonscrit les quartiers de Paris les plus cosmopolites, les plus bronzés, les plus populaires, oui. Donc, il y a une sorte de mémoire des lieux ou de vertu des lieux qui fait que les communards et aujourd'hui les immigrés, au fond, ils vivent aux mêmes endroits.
Oui, enfin, sauf que quand même la partie dévolue au peuple populaire est de plus en plus est une peau de chagrin maintenant dans Paris.
C'est vrai, mais ici ça tient bon. Regardez, regardez ce manège. Pour revenir à deux secondes à l'état unique, j'y étais l'autre jour avec ma fille. Ce manège qui est à côté de la bouche du métro Belleville, eh bien il y avait deux dames qui discutaient, l'une juive, l'autre arabe, qui discutaient, qui comparaient la dureté du Ramadan et de Yom Kippour. L'une qui disait, voyez, quand même, Ramadan, ça dure beaucoup plus longtemps. Elle dit, oui, mais Yom Kippour, c'est plus sérieux parce que c'est toute la journée vraiment, il n'y a rien le soir. Pendant que leur môme tournait dans la même petite voiture du manège. Je trouvais que c'était un symbole extraordinaire de cet état binational.
Donc le titre du bouquin, Eric Hazan, La guerre civile continue, et le titre, c'est Changement de propriétaire. Alors, bon, voilà, le propriétaire, c'est qui? La question.
Ben, c'est le 6 mai au matin, l'entreprise France a changé de main. Parce que je crois vraiment que c'est... C'est comme ça maintenant. Hein. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. C'est une entreprise qui a des comptes d'exploitation, des frais généraux. Les frais généraux, ça serait plutôt les immigrés, les sans-papiers, les sans-domicile fixe. C'est une entreprise et l'idéologie entrepreneuriale, elle est répandue de tout en haut à tout en bas de la société. C'est-à-dire qu'on voit finalement se réaliser ce que Michel Foucault avait envisagé il y a maintenant une bonne trentaine d'années, c'est-à-dire que chacun devient l'entrepreneur de lui-même. Et c'est très commode parce qu'au fond, celui qui se retrouve sans, alors sans papier, sans toit, sans domicile, sans travail, il a fait faillite. Il n'a à s'en prendre qu'à lui-même. C'est vraiment l'entreprise France qui est composée maintenant d'une grande série d'entreprises emboîtées depuis dans les autres, depuis EADS, jusqu'au monsieur qui est un habitué, un clochard habitué de ce lieu derrière le métro, entre le joueur de Bonneteau et la Sanisette de Co.
Il y a quand même... Il faut qu'on parle un peu de ce style de bouquin. C'est-à-dire que depuis le livre commence le 6 mai, c'est ça ?
Oui, oui.
Voilà, à partir du moment où on touche notre nouveau propriétaire, et puis il s'arrête quoi, fin août ?
Début août.
Donc on a 3 mois...
Mai, juin, juillet.
Mai, début août. Voilà. 3 mois de chronique quotidienne, d'observation. C'est un journal ?
C'est pas un journal personnel, c'est pas un journal intime. C'est un journal... J'ai essayé de ne pas faire du journalisme, c'est un journal non journalistique, c'est-à-dire j'ai essayé de ne pas coller à l'événement, à ne pas commenter. Ce que j'ai essayé de montrer à maintes reprises, c'est que, contrairement à ce que nous pensons tous, nous ne vivons pas une époque exceptionnelle. Toutes les époques ont tendance à se considérer comme exceptionnelles. Mais en fait, ça s'intègre, c'est le prolongement d'un passé qui date depuis longtemps. La guerre civile, c'est pas d'hier, hein. C'est par exemple, La trahison, les gens sont sidérés par la trahison de nombreux dignitaires socialistes. Mais les dignitaires socialistes, ils ont trahi en 40. Pour la majorité d'entre eux, ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Ils ont collaboré dans l'État français. Il faut se souvenir, hein, Belin qui était ministre du Travail, Albertini qui était un dignitaire important des jeunes socialistes, qui est devenu vraiment fasciste. Donc, trahison des socialistes en 40. Ça, j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais je me souviens très bien de la trahison des socialistes à l'arrivée au pouvoir de Gaulle. Ils ont participé avec les députés en tête à une grande manifestation pour refuser le coup d'État. Et le lendemain, Guy Mollet était ministre d'État, après avoir voté l'investiture à De Gaulle. Donc, trahison, elle est consubstantielle à la social-démocratie.
Alors, vous notez l'intronisation de Sarkozy. Oui, là aussi, on a déjà vu ça avec Giscard.
C'est très frappant. J'avais une impression de déjà-vu. Alors, je suis retourné dans les journaux de l'époque, de mai 74. Et je me suis rendu compte, Giscard arrive et proclame la rupture. Il dit, c'est une ère nouvelle qui commence. Il arrive décontracté à l'Elysée, à pied. L'intronisation, le grand cordon de la Légion d'honneur. Les gens sont en costume de ville, ils ne sont pas en jaquette comme autrefois. Et le petit gamin joue aussi avec le grand cordon. Et puis, on dit un ministère serré. 15 ministres seulement. On dit, c'est le président qui gouverne. Le premier ministre, qui était un certain Jacques Chirac, le premier ministre exécute. Le président de la République gouverne. Et puis, il y a le style, il se fait poser en hélicoptère dans la villa de Poniatowski pour assister aux fiançailles de la fille de Poniatowski. Il y a tout un style qui est un mélange de luxe et de décontraction qui est vraiment tout à fait celui qu'adoptera Sarkozy aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le fait qu'on le considère... Il y a un article de Mauriac que je cite dans le livre qui est formidable. On le considère fait... Giscard, on le considère fait pour devenir président de la République depuis qu'il est tout petit. Et ça, Sarkozy, on l'a dit aussi. Alors, c'est une sorte de remake avec évidemment des différences, d'abord qui sont dues à l'époque, et puis qui sont dues au fait que Giscard, il l'a joué plutôt vieille aristocratie, mais même fausse, mais vieille fausse aristocratie. Il l'a joué pas jogging, et encore qu'il était sportif, il jouait au tennis, hein, et il jouait de l'accordéon.
Ah oui. Et il s'invitait à dîner chez les gens.
Et il s'invitait à dîner chez les gens. Il y avait ce côté sentimental et cynique à la fois qu'on retrouve aujourd'hui.
On passe d'un sujet à l'autre. C'est au fond des chroniques courtes. Hein. C'est rare que ça dépasse un feuillet ou deux. Il y a trois grands entretiens.
Oui.
Avec Jacques Rancière.
Sur le populisme. Sur la notion de populisme.
Il y a un entretien avec Alain Badiou sur le maoïsme.
Qui est assez massacrant.
Qui va rigoler les jeunes générations aujourd'hui. Et puis, il y a un long entretien aussi avec avec Daniel Ben Saïd. Alors ça, c'est trois moments du bouquin. Et puis, donc, ces chroniques qui passent d'un sujet à l'autre. L'un de vos sujets de prédilection, un domaine qui vous intéresse beaucoup depuis très longtemps, c'est le Proche-Orient. J'ai pas dit le conflit israélo-palestinien, non. Parce que je suis sûr que je me ferai immédiatement remonter les bretelles.
Oui, il n'y a pas de conflit.
Il n'y a pas de conflit. Bon, mais ce qui vous intéresse, évidemment, c'est toutes ces luttes et leurs répercussions aussi, le lien entre ici et là-bas.
C'est ça. Je n'ai pas voulu parler de ce qui se passait directement en Palestine, parce qu'il m'a semblé que ça sortait un peu du cadre d'un tel ouvrage. En revanche, j'ai parlé à plusieurs reprises de la traduction française, de la manière dont les journalistes français, dont les publicistes français rendent compte ou ne rendent pas compte de ce qui s'y passe. Et aussi de la question de la chasse à l'antisémitisme dans tous les placards pratiqués par un certain nombre de professionnels dont c'est devenu en quelque sorte un fonds de commerce.
Alors là, vous décrivez un moment où vous allez assister à un colloque contre l'antisémitisme culturel. Contre l'antisémitisme culturel. Et là, vous découvrez quand même des choses qui vous étonnent.
Oui, c'est ça. Dans la première matinée, il y avait un Américain qui parlait des écrivains français sous l'occupation. Enfin, des choses qu'on sait parfaitement, hein, ça n'apprenait rien. Et puis, soudain, au milieu de Céline Dreyeux-La Rochelle et autres brasillacs, soudain, une communication sur Alain Badiou et le nom juif, entre guillemets.
C'est donc, un des textes d'Alain Badiou.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Badiou, soudain, se trouvait projeté au milieu de Dreyeux, Brasillac. C'est-à-dire que c'était l'orateur Éric Marty, celui qui a écrit tout un livre sur Badiou, a bien insisté sur le fait qu'il ne le considérait pas du tout comme un antisémite. Bien que...
Quoique.
Et finalement, tout son propos tenait à prouver le contraire, c'est-à-dire que Badiou était bel et bien antisémite. Moi, je pensais que cet homme, j'avais lu son livre, et je pensais que c'était un malin. En fait, pas du tout. C'était d'une platitude et d'une bêtise totale. D'ailleurs, nous étions deux ou trois dans la salle et quand il a fini de parler, nous l'avons en quelque sorte dynamité.
Voilà. C'était pas la première fois, c'est une récidive. Hein. Là, vous êtes récidiviste parce que vous avez publié il y a quelques années déjà un essai de l'historien américain Norman Finkelstein qui vous avait valu quelques ennuis, on va dire.
Oui, nous avons été assignés par cette officine sinistre qui s'appelle Avocats sans frontières, dirigée par Maître Goldnadel, l'avocat de Omar Bongo, l'avocat de Oriana Fallaci. Et nous étions assignés pour incitation à la haine raciale, discrimination raciale. Ce qui ne manquait pas d'un certain piquant me concernant, étant donné que j'ai quand même l'âge d'avoir failli finalement être déporté, comme l'ont été mes voisins de palier dans l'hôtel que j'habitais à Nice. Donc ça m'a moyennement amusé, cette assignation. Bon, ils ont perdu en première instance, perdu en appel, avec des attendus honteux pour eux. Ce qui les a pas d'ailleurs découragés.
Découragés, non, pas du tout.
Non, pas du tout. Ils continuent, inlassablement. Mais ça leur est égal de perdre, même honteusement. Du moment que ça gêne, que ça ennuie, ça prend du temps, ça prend de l'énergie mentale. C'est ça leur but.
d'un dernier ami nommé Dolly. D'un coup de dodona. Depuis Daddy l'a dit, Daddy l'a dit. Tu rétis de Daddy, dit ta dada. De Dordi Vatelli, en Moldavie. De tes dents en lieu dit.
Il y a une manif là au coin de la rue.
Tous les deuxièmes mardis du mois, le mouvement RESF, qui veut dire Réseau d'éducation sans frontières, se réunit depuis avant les élections, depuis le printemps, depuis le mois de mars, je crois. Tous les deuxièmes mardis du mois, il se réunit ici. Et c'est très curieux parce que c'est un mouvement qui était au départ fondé sur l'indignation. C'est des parents qui ont des enfants à l'école. Ici, la rue Tourty, rue des Noyers, rue de Belleville, rue Rampal. École où la plupart des enfants sont de couleur. Jaune, brune, noir.
Blanc.
Blanc, quelques-uns. Minorité, hein. Eh bien, ces gens-là, ces parents, se sont indignés de voir qu'on pouvait prendre des enfants dans les écoles et les virer dans les avions en même temps que les parents. Alors, ce mouvement est un mouvement de défense fondé sur l'indignation, mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il persiste. Parce que, en général, l'indignation, ça dure pas longtemps. Hein. On indigne un moment, puis on s'y fait. Alors que là, ça tient le coup. Et non seulement ça tient le coup, mais ils ont organisé quelque chose de formidable qui est que il y a un système de garde, d'alarme, fondé sur email et sur les portables. Alors, on reçoit des messages en disant 22h, ou non, 20h30. Rafle au métro Couronne.
Rafle, pas le mot.
Rafle, ah oui, le mot est clairement employé. Rafle au métro Couronne, venez. Alors, les gens qui peuvent se précipitent. Et les policiers, quand ils voient arriver une demi-douzaine de Français innocents, ils reculent, ils s'en vont. Soit qu'ils aient honte, soit plutôt, je pense qu'ils aient des ordres très stricts, surtout pas d'histoire avec les Français. Surtout pas de bavure. Donc, s'il y a un petit attroupement, vous laissez tomber, vous en allez. Donc, c'est très efficace. Et ces gens-là, d'ailleurs, sont aussi efficaces en faisant des dossiers de régularisation, en accompagnant les gens à la préfecture, au tribunal administratif. Je dois dire qu'ils sont formidables. Ils ne sont pas des politiques, hein. Pas au départ. Dans l'ensemble.
Ils le deviennent?
Je crois.
Forcément, oui. Enfin, c'est ça la politique, de toute façon.
Oui. C'est de la politique. Oui. Mais ce n'est pas du tout noyauté par des partis ou par des groupements structurés.
Alors, le bouquin est fait de... Donc d'observation, de vous vous nourrissez de tout, quoi, hein. Tout fait sujet.
Oui, j'ai essayé de faire une espèce de contrepoint avec le quartier de Belleville, entre les grandes informations, le délit d'initié à EADS, les lois scélérates de Rachida Dati et de Sarkozy, ces informations qui font la une des journaux, et puis les petites informations ici, les petits faits de la vie de Belleville, qui finalement font un contrepoids parfait. Parce que les lois de Rachida Dati, les lois de Monsieur Hortefeux, je fais une petite parenthèse, j'écris dans le livre, ce qui est vrai, c'est qu'un de mes amis m'a dit qu'il avait fait un cauchemar Il avait rêvé qu'on le mettait en prison parce qu'il avait parlé dans un papier de Hortefeux de Pellepoix. D'Arquet de Pellepoix étant le commissaire aux affaires juives du gouvernement de Vichy.
Pendant qu'on parle, c'est vraiment du hasard, là. On a l'impression qu'il y a, que vous avez payé des figurants pour dire, voilà, c'est ça, mon pari, c'est ça. Il y a des gars qui sont en train de dresser une banderole noire.
Oui, laissez-les grandir ici, c'est souvent le thème des banderoles qui sont mises sur les écoles de la rue, du quartier. Et ce que je trouve vraiment bouleversant, c'est que ces banderoles, qui sont souvent dessinées par les enfants, peintes par les enfants, elles sont sur le même mur que ces plaques noires qui ont été mises en place dans les années 2000 sur la plupart des vieilles écoles de Belleville, où ils disent que ici il y avait des enfants juifs qui ont été conduits au camp de la mort parce qu'ils étaient juifs. Et je trouve que la coexistence sur le même mur de ces banderoles et de ces plaques a quelque chose de vraiment troublant. Je ne dis pas que c'est la même chose, c'est évidemment pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens qui ordonnent les rafles et qui les exécutent quand ils voient cette coexistence de ces banderoles et de ces plaques? Est-ce qu'il n'y a rien, est-ce qu'il n'y a pas une étincelle de honte qui éclate dans leur cervelle? Je me pose la question.
Alors, revenons aux entretiens, les trois entretiens qui sont dans le bouquin, Ben Saïd, Badiou et Rancière. Là, avec Jacques Rancière, qui est un des auteurs qui travaille pour vous, qui travaille pour la fabrique.
Oui, oui.
Vous parlez de démocratie, lui il parle de la démocratie, et ça part du mot populisme. Et je trouve qu'il est très très lumineux sur ce mot populisme.
Oui, il explique que le populisme, d'abord c'est un mot qui remonte à la déconsidération du phénomène, ça remonte à Lénine, qui traitait de populiste toute cette frange de la noblesse et de la bourgeoisie russe qui allait au peuple et qui s'appuyait, d'après Lénine, sur les portions les plus arriérées du peuple russe, alors que lui disait que c'est la classe ouvrière, c'est l'élément avancé, l'élément d'avant-garde sur lequel il faut s'appuyer si on veut avancer. Donc c'était déjà dès le départ un élément péjoratif, un adjectif ou un substantif marqué négativement. Et aujourd'hui, ça sert à faire l'amalgame de tous les gens, au fond, qui voudraient faire en sorte que les choses soient autrement qu'elles ne sont. Donc, Ségolène est populiste. Et évidemment aussi, le mot est retourné contre Sarkozy pour la dépréciation qu'il fait de la représentation populaire, pour le fait qu'il cherche à travailler directement avec le peuple en passant par-dessus les corps institués et les corps intermédiaires.
Il y a quand même, dans l'entretien avec Rancière, quand il parle de la démocratie, il parle d'une haine de la démocratie, hein, d'un mépris de la démocratie. C'est-à-dire qu'on croit vivre dans une démocratie, on croit que le système politique et le système de valeurs dans lequel nous vivons est démocratique, et dit qu'au contraire, il y a une peur du peuple dans la politique actuelle et dans les valeurs prédominantes.
Oui, ce qu'il appelle la haine de la démocratie, c'est ce phénomène auquel on assiste de temps en temps. Tout le monde se dit démocrate, qui aujourd'hui pourrait publiquement dire « moi je suis un antidémocrate ». Tout le monde est démocrate, seulement lorsque soudain surgit un événement où le peuple s'exprime, où les s'empare, où les incomptés soudain prennent la parole. Et prennent la parole en général avec une certaine violence. Et que cette violence s'accompagne souvent de violences physiques. À ce moment-là, tous les prétendus démocrates crient leur haine de ce surgissement démocratique. En 95, on l'a parfaitement bien vu, quand tout le monde, y compris des gens très sérieux, des professeurs au Collège de France, ont accusé de populisme le mouvement social de 95. Et puis on l'a très bien vu au moment des émeutes de la banlieue en novembre 2005, où alors là, tous les démocrates ont crié haro sur ce qui n'était rien d'autre qu'un surgissement d'une véritable démocratie et d'un véritable cri populaire.
Est-ce que ça ne nous rapproche pas de la commune, tout ça, dans le sens d'une démocratie représentative ou d'une démocratie participative. On ne trouve pas ces thèmes-là dans ce qu'on est en train d'évoquer là.
La commune, c'est un phénomène unique parce que il y a eu vraiment, et pour la dernière fois sans doute, une véritable union entre le prolétariat et une couche importante de la bourgeoisie. Alors que, par exemple, dans les journées de juin 48, qui ont été réprimées beaucoup plus brièvement et aussi durement, qui n'ont duré que 4 jours au lieu de 70 jours, il n'y avait que le prolétariat. Parce que toute la bourgeoisie était de l'autre côté. La bourgeoisie républicaine a fait canonner le peuple pendant les journées de juin 48. Alors que, pendant la commune, il y avait vraiment des gens comme Manet, comme Courbet, c'était pas des prolétaires, même Vallès, encore que lui, bon. Mais enfin, il y avait quand même une frange de bourgeoisie, plus ou moins bohème, plus ou moins artiste, mais révolutionnaire, qui faisait cause commune avec le prolétariat. Et ça, ça a été quelque chose qui a donné lieu, non seulement à ce mouvement sublime, mais à une forme de gouvernement très particulière. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je crois que c'est le vieil Engels qui disait « Vous savez pas ce que c'est que la dictature du prolétariat ?» Ben, regardez la commune, c'est la dictature du prolétariat.
Alors, vous évoquez les artistes comme Courbet, on pourrait évoquer aussi les intellectuels, entre guillemets, qui ont participé à la commune. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. On peut citer les quelques intellectuels à peu près dignes qui ont parsemé le XXe siècle. Dans votre bouquin, je rappelle le titre, « Changement de propriétaire, la guerre civile continue ». C'est au seuil, hein, c'est pas
chez La Fabrique.
Vous parlez de chez le nouveau propriétaire. Enfin, le nouveau propriétaire invite une pelletée d'intellectuels, enfin quelques intellectuels, à sa table.
Oui, parce que on a dit, il a fait un dîner avec Finkielkraut, Pierre Erdankos, Glucksmann et Max Gallo, et je dois en oublier un. Alors on a dit que c'était pour essayer d'effacer son image de nouveau riche inculte. Mais si ça avait été le cas, à mon avis, il aurait quand même pu prendre des gens un peu moins ringards, un peu plus prestigieux, pourquoi pas des gens plus talentueux. Il n'en aurait pas manqué qui auraient accepté de venir dîner avec lui. Mais je pense qu'il a pris cela parce que, au fond, ce sont les porte-paroles les plus en vue du néoconservatisme à la française. Avec la haine des immigrés, la haine de l'islam, la haine de mai 68, qui sont vraiment les piliers de ce mouvement néoconservatiste qui font avancer ces gens-là depuis maintenant des années. Ça ne date pas d'hier, ça date de très longtemps. Et c'est ce mouvement-là qui a permis à Sarkozy d'avoir une sorte de doctrine, et c'est ça qui lui a fait gagner les élections. Moi, je pense que ces gens-là, il a voulu les récompenser parce que c'était ses meilleurs porte-paroles.
Alors, vous décrivez aussi l'agonie, ou on va dire le déclin du Parti communiste français.
Oui.
L'agonie, oui. C'est vous qui le dites. Moi, je dis déclin.
C'est quelque chose entre les deux, oui. Je pense que l'analyse qui est faite en général, c'est que le Parti communiste a été aspiré, pompé, détruit par Mitterrand. En les faisant entrer au gouvernement, il leur a joué un coup pendable, et que c'est à ce moment-là qu'ils se sont vidés de leur substance. Moi, je pense que c'était un coup final, un coup de grâce. Je pense qu'en fait, leur décadence, leur décrépitude remonte à plus longtemps. Elle remonte à leur attitude pendant la guerre d'Algérie, où ils ont véritablement collaboré avec le pouvoir socialiste pour la répression. Ils disent le contraire maintenant, mais c'est un mensonge absolu. Moi, j'ai des amis qui ont aidé le FLN dans les réseaux auxquels j'ai moi-même très modestement participé. Ces gens-là ont été pris par la police et le parti les a, non seulement les a pas défendus, mais les a exclus parce que c'était pas permis. Première descente aux enfers, la guerre d'Algérie, avec ensuite l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, où on attendait que le Parti communiste fasse quelque chose quand même devant ce qu'à l'époque on ne pouvait pas considérer autrement que comme un coup d'État et potentiellement très dangereux.
13 mai 58.
Le Parti communiste s'est couché. Il a appelé à des manifestations pacifiques. Et la deuxième marche de la descente aux enfers, c'est mai 68. Parce que là, devant ce mouvement qu'ils n'avaient pas prévu, qu'ils n'avaient pas lancé, qu'ils ne parvenaient pas à contrôler, ils ont tout fait pour l'arrêter. Les communistes ne pouvaient pas prendre la parole dans les assemblées au quartier latin, vous vous en souvenez. Ils étaient hués tout de suite, ils ne pouvaient pas parler. C'était impossible. Et dans les usines, ils ont tout fait pour que les grèves sauvages menées par la partie révolutionnaire de la jeunesse ouvrière s'arrêtent. Et après, il y a eu les accords de Grenelle, Ségui, Pompidou, qui ont sonné le glas du mouvement de mai, qui ont enterré le mouvement de mai. Et ça me fait bien rire aujourd'hui quand on parle d'un Grenelle de l'environnement.
Ah oui, référence à mai 68. Alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux les diatribes de notre nouveau propriétaire sur mai 68?
Je pense que oui. Je pense qu'il est très sincère quand il dit qu'il faut extirper ce qui reste de l'esprit de mai 68. Parce que c'est vraiment complètement l'inverse de mai 68 qu'il cherche à promouvoir, c'est-à-dire l'individualisme absolu. Chacun, l'entrepreneur de lui-même. Et ça, c'est complètement contraire à l'esprit de mai 68, qui était véritablement un esprit communiste au véritable sens du terme. Mai 68 était un mouvement communiste, même si le parti communiste n'y a pas participé et a tout fait pour le saboter.
Looking in your eyes, I resemble something. Looking like a perfect mirror of the perfect thing that I am not. Good in a kettle of jam, I am staying on the mirror. I remember something, a perfect reflection. You remember who I am. I am you, you is me, but who maybe I could be. Looking in the mirror on the other side, I'm a perfect reflection of you, babe. Say, say you, babe. Say you, babe. Say. Looking in your eyes, I resemble something like cooking on a board like a bottle of jam. I'm in the mirror, I'm on the other side. I'm perfect reflection, I resemble you, baby. I am you, you are me. I am. I am. We are. Far too much for a popular public.
Alors, trois mois de chronique et d'un journal non intime. Celui qui nous écoute doit se dire, mais attends, on parle de n'importe quoi, on passe d'un sujet à l'autre, on peut parler du Hamas, on peut parler du Darfour, on peut parler d'un tas de sujets. Quel sens on peut tirer de ces trois mois? Est-ce qu'il y a quelque chose, une idée forte, quelque chose de fort qui se dégage de ces trois mois de travail, de ces trois mois d'observation?
C'est un peu ce que j'ai essayé de résumer dans l'interview imaginaire qui clôture le livre. Un professeur américain qui est interrogé en 2017 pour le 10e anniversaire de l'élection de Sarkozy.
Depuis l'université Noam Chomsky.
Oui, c'est ça. Ce professeur américain est interrogé sur les causes. Pourquoi finalement le sarkozysme a-t-il capoté complètement face à une insurrection massive? Et il analyse les deux éléments qui me semblent tout à fait déterminants. Et pour répondre à votre question, quels sont les éléments clés? J'en vois deux. Le premier, c'est l'avènement du règne du cynisme absolu. Jusqu'à présent, les politiciens français faisaient très attention à ne pas paraître lié au milieu de l'argent. Même s'ils amassaient par ailleurs des fortunes, certains, on le sait bien, ne s'en sont pas fait faute, mais ils avaient des costumes sombres, des gilets, et ils étaient derrière un masque de respectabilité absolue. Notre actuel président a jeté ce masque. Il est le frère de Lagardère, le parrain du fils de celui-là, il est le témoin de mariage de tel autre. Autour de lui, l'oligarchie médiatico-financière qui dirige ce pays, c'est sa famille. L'histoire du yacht et des vacances pour Villa de Milliardaire aux États-Unis, c'est pas une erreur, c'est voulu. C'est pour montrer que avoir de l'argent, c'est bien. Avoir des amis riches, c'est bien. Pomper les pauvres pour enrichir les riches, ça peut se faire. C'est pas honteux. Voilà. Premièrement, donc, le cynisme absolu. La deuxième chose, c'est les coups qu'il porte pour finir de détruire la social-démocratie en France, le Parti Socialiste. Le débauchage, qui a commencé avec Kouchner, je pense que en faisant ça, il sonne le glas du système gauche-droite. L'alternance, un coup à gauche, un coup à droite, qui est le meilleur agent du statu quo en France depuis la Libération. Le statu quo repose sur cette alternance. S'il y a deux plateaux de la balance, il y en a tantôt un qui monte, tantôt un qui descend. Si on enlève un des plateaux, le déséquilibre est total. Il n'y a plus à ce moment-là le choix qu'entre le ralliement à la réaction et le radicalisme absolu. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait neuf. Et je pense que ça marque la fin d'une époque qui dure maintenant depuis 1945, depuis que les communistes ont fait rendre les armes au maquis, c'est-à-dire depuis 1945-46.
Alors on va vers quoi ?
Alors, vous dites que c'est mon fantasme. Moi, je pense qu'on va... Bon, il y a une grève de la SNCF le 18, des journées d'action, des défilés pacifiques, des manifestations en pantoufles, ça, il continuera à y en avoir. Mais je pense qu'on va vers des événements beaucoup plus spectaculaires, possiblement violents, et qui seront toujours marqués par l'inattendu. Vous savez, Rosa Luxembourg disait « La révolution ne paraît jamais plus improbable que la veille du jour où elle éclate ».
Eric Hazan, je rappelle le titre de son livre, Changement de propriétaire, la guerre civile continue, qui paraît aujourd'hui aux éditions du Seuil. D'autre part, jetez un œil attentif à l'ouvrage collectif coordonné par Jean Ortiz, chez Plus que jamais aux éditions Atlantica, une vingtaine de contributeurs spécialistes de l'Amérique latine mènent une réflexion croisée sur l'éthique de la pensée dans la pensée du Che. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez lire tranquillement le texte de François Ruffin sur l'affaire EADS Lagardère pour les nuls, et réécouter l'émission que nous lui avons consacrée. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Bénédicte Roy, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien le dire, assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert qui attend jusqu'à demain vos messages dans le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 01 56 40 37.